RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Serge Papin. L'ancien patron de Super U, devenu depuis ministre notamment du commerce et de l'artisanat, Monsieur Papin nous assure que nous allons pouvoir, les salariés, utiliser les titres restaurants le dimanche.
Oui, le dimanche, et il veut aussi pérenniser l'usage du ticket restaurant en grande surface. On peut le faire, il y a une dérogation qui a été décidée en 2022, mais là, il veut pérenniser donc à la fois le ticket restaurant, on pourra le dimanche faire ses courses avec, et on pourra aller en grande surface. Alors bien sûr, la restauration traditionnelle est vent debout, parce que le ticket restaurant, par définition, ça a été inventé pourquoi ? C'était inventé pour les salariés qui n'ont pas de cantine dans leur boîte, et donc grâce au ticket, ces salariés pouvaient aller au restaurant. Et puis maintenant, ce ticket restaurant est devenu finalement un ticket alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut aller acheter, faire ses courses, acheter, je sais pas, une salade, des pâtes, etc. au supermarché, et maintenant même le dimanche, donc pendant ton jour de repos. D'ailleurs, certains disent qu'on devrait plus appeler ça ticket restaurant, mais ticket alimentaire. Certains même accusent Serge Papin de faire un cadeau à la grande distribution, puisqu'il vient à la grande distribution. Il s'en défend et dit que c'est simplement pour permettre aux Français d'utiliser en ces temps difficiles pour le pouvoir d'achat ce moyen de paiement, sachant qu'il y a de plus en plus de Français qui désormais ne vont plus au restaurant mais télétravail, etc. Et donc les modes ont évolué. Alors est-ce qu'il a raison de faire ça ?
Alors c'est vrai que ça donne du pouvoir d'achat, ça coûte pas grand chose au gouvernement, ça non. Évite de faire un chèque, bien évidemment. Donc
mais la grande distribution captait fin 2024 déjà 31,5% des dépenses en titres restaurants et pour les restaurants traditionnels c'est 39%. Donc la grande distribution est en train de dépasser les restaurants.
Bah, si tu veux, tu sais à combien il est estimé le marché des tickets restaurants globalement ?
Globalement, c'est énorme.
Vous avez eu un ordre d'idée ou pas ?
De quoi ?
Le marché global du titre restaurant. Non. Parce que ticket restaurant c'est une marque.
Oui,
mais
vrai,
du titre restaurant, vous savez combien ? 10 milliards.
Eh oui.
Donc si tu veux, c'est quand même une manne. Mm-hmm. Je comprends, hein, les restaurateurs, ils disent, écoutez, il y a marqué restaurant, donc c'est quand même pour nous.
Ah ouais.
Et puis la grande distribution se dit, bah c'est pas mal d'essayer d'en récupérer. Donc c'est une vraie manne financière. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Bruno Poncet ?
Ah, moi j'en dis, c'est un dévoiement du comme tu dis. Avant, ça s'appelait Ticket Restaurant, maintenant ça a changé de nom, mais en fait c'est un dévoiement. Après, il faut quand même se rendre compte qu'avec un ticket restaurant journalier de 10 €, tu manges quasiment nulle part. Tu peux peut-être manger dans un bouillon un plat, et je crois que ça va pas aller plus loin, hein, 10 balles. Hein. Parce qu'en fait, 10 balles, donc en fait, les gens, pour eux, ce qu'ils voient, et dans un moment où les entreprises n'augmentent pas les salaires à la hauteur de l'inflation, la plupart des entreprises ne le font pas, donc ce qui fait que les gens, en fait, ils se rabattent là-dessus pour faire leurs courses. Donc, on est vraiment sur un problème d'inflation et aussi, de quelque part, de problème de salaire et de pouvoir d'achat, ouais, c'est ça. Cette année qu'on en parle. Et le sujet, il est là, et le sujet, que quand tu payes... Aujourd'hui, en France, on a les salaires assez bas, et en fait, c'est sûr, hein, les gens te disent tous, oui, très peu de personnes travaillent au SMIC. Oui, mais t'as tellement de gens qui ont des contrats précaires à moins de 100% de temps de travail. Forcément que tes 10 € qu'on va te donner par jour, tu les accumules sur 3-4 jours et à la fin, tu fais des courses avec, en fait. Et c'est vrai que c'était pas fait pour ça au début. Mais au début, avec ton ticket restaurant à l'époque, tu pouvais, je dis pas que t'allais manger, mais avec 40-50 francs, il y a quelques années, t'allais manger. Aujourd'hui, avec tes 10 €, tu manges où? Moi, après, on peut me raconter partout que tu manges avec 10 €. Moi, je suis un pur parisien dans ma vie perso. Je peux te garantir que, à part des quelques bouillons où tu peux avoir un plat entre 8 ou 10,
t'achètes un sandwich, bah voilà, une tartelette et
mais c'est
et
vrai
encore.
Que et je comprends
un sandwich, tartelette, soda,
que les restaurateurs disent
largement
les 10 €. Moi je peux le comprendre. Moi je pourrais même entendre les restaurateurs qui disent je veux plus de ticket restaurant chez moi. Mais dans ce cas-là, on appelle ça
certains restaurateurs disent dans ce cas-là,
bah
on va plus accepter.
Ça peut se comprendre en fait, mais après il faudra plus appeler ça ticket restaurant, il faudra appeler ça ticket pouvoir d'achat.
Ouais, mais c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'on est en train toujours de s'enfoncer vers une précarisation, une paupérisation du pays. Le ticket restaurant quand même, philosophiquement, c'est dans un cadre particulier, ouais, c'est-à-dire tu bosses, tu vas bouffer au restaurant à midi. Maintenant, tu as ton ticket restaurant, tu peux aller faire tes courses à la supérette ou au supermarché. Donc le pays est en train de se déliter. Tu parlais des salaires qui étaient trop bas, mais les salaires sont trop bas.
J'ai l'impression que c'est des bons alimentaires,
ben oui,
maintenant.
Ben, autant les appeler les tickets restaurants du cœur, tant qu'à faire. Ouais, donc ouais, voilà. Pourquoi les salaires sont trop bas ? Parce que les charges sont trop élevées, parce que les entrepreneurs étouffent. Donc c'est toujours le chien qui se mord la queue. Et quelle est la prochaine chose sur laquelle on va rogner ? Et surtout, l'idée que ça donne, c'est quoi ? Ben, y a un peu d'état providence aussi dans tout ça.
C'est-à-dire nounou là.
Voilà, c'est
on va
toujours
vous aider
ce
à manger.
Côté de l'état nounou. C'est-à-dire que l'état devient nounou même là où les Français ne le demandent pas. Alors oui, une personne qui est dans la précarité va dire merci. Mon but n'est pas de cracher sur les gens qui galèrent à la fin du mois et d'ailleurs même dès le début du mois aujourd'hui. Mais c'est pas bon. On va emmener les Français vers quelle mentalité en réalité? On va devenir un pays de losers en fait. On va plus vouloir.
On va devenir.
Mais oui. Oh,
non mais pourquoi je sais
déjà.
Pas pourquoi tu mets
non,
ça
mais
au futur.
On ne va plus vouloir entreprendre. On ne va plus vouloir être innovant. On ne va plus vouloir même proposer des idées. On va toujours regarder vers le haut comme ça. Oh et l'État, j'ouvre ma bouche, envoie-moi le pain. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pas bon pour l'image de la France et c'est pas bon pour la mentalité des Français. Qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes? Ben comme Mourad, cassez-vous de ce pays. Il a raison de dire ça. Il a raison.
Ouais. Barbara, et puis ensuite on ira du côté de Toulouse.
Après, ceux qui vont en bénéficier sont contents.
Il y a 175 000 restaurants en France. Il y a 175 000 restaurants en France. Donc déjà, il y en a 25 qui ferment chaque jour, d'accord. Mais enfin, il y en a d'autres qui ouvrent. Hein. Moi, je vois partout, à chaque fois que je me balade, il y a toujours un restaurant qui va ouvrir et un autre qui ferme. Et parfois, ceux qui ouvrent, c'est souvent soit des toutes petites brasseries, soit de la restauration rapide.
Bref,
des croustilles.
Donc, quand j'entends les restaurateurs venir pleurer sur leur situation, ça, là, sur la question des charges. Ça, on est d'accord, il n'y a pas que les restaurateurs. Les charges sont beaucoup trop élevées sur les entrepreneurs en règle générale. Enfin, les restaurateurs répercutent quand même très lourdement, on va dire, hein, les prix aux consommateurs. Moi, je suis navrée.
Tu trouves les restaurants trop chers ?
Non, mais moi, je ne vais plus au restaurant que pour des événements. C'est-à-dire que si vraiment il y a un anniversaire ou quelque chose, j'accepte d'aller au restaurant, de payer ce qu'il faut, etc. Mais le resto plaisir...
Et encore, tu prends que l'entrée. Tu prends encore, que la salade.
Ouais. Et pour la deux. Carafe d'eau voilà. Qui est gratuite. Mais le resto plaisir, le resto sympa pour sortir, je n'y vais plus. Parce que déjà, je trouve que ce que j'ai dans mon assiette, c'est pas du tout à la hauteur du prix. Franchement, on se fout du monde. Aujourd'hui, les prix, c'est tout de suite 20 euros. Et quand tu vois ce qui t'arrive, je suis désolée, c'est pas à la hauteur. Donc, que les restaurateurs non plus ne s'étonnent pas, que le salarié, il évite le restaurant pour aller s'acheter à manger à la supérette, parce que de toute façon, bien souvent, la pasta box ou aller manger des pâtes dans un restaurant, c'est parfois pas loin d'être la même chose. Sauf que bien sûr, les pâtes, si elles sont correctement faites, elles seront moins pleines de produits chimiques. Mais par ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les gens ont besoin de ce chèque alimentaire. Donc pourquoi est-ce qu'on l'autoriserait pas jusqu'au dimanche? Moi, je ne vois pas où est le problème. Ça m'ennuie parce que ça fait travailler l'industrie agroalimentaire, donc ça me gêne. Mais en même temps, je vois aussi que les restaurateurs ont abusé pendant longtemps au niveau des prix.
Alors peut-être qu'il y a des abus. Mais enfin, ça dit quelque chose de notre pays. On est obligé qu'un ministre autorise les Français à utiliser leur ticket restaurant pour faire leurs courses le dimanche.
Pays qui s'effondre.
Ça dit quand même de la précarisation de ce pays. Ça dit quelque chose de notre pouvoir d'achat. Alors bien sûr, ceux qui vont en bénéficier seront contents le dimanche d'aller faire leurs courses. Mais on a besoin de ça.
C'est pas moi qui ai augmenté ma dette de 1260 milliards.
Penser que les gens vont par leur travail réussir à être augmentés, à bien gagner leur vie, qu'on est obligé de trouver des pis-allers.
Non, mais Olivier, c'est pas des grosses courses, hein. C'est 25 euros par jour que t'as le droit, avec tes tickets restaurants. Donc, en fait, les gens
mais c'est de l'appoint.
Mais déjà, les commerces devraient pas être ouverts le week-end, les supermarchés, ça devrait pas
Mais justement, comme tu dis, 25 euros, les gens, ils vont mal manger. Ils vont acheter les petits sandwichs en triangle à 2-3 euros qui sont industriels. La baguette à 30 centimes qui a le goût de métal. Enfin, tu vois, je caricature. Mais là, ça va encourager la malbouffe industrielle supermarchés.
Monsieur Fillon, en son temps, quand il était Premier ministre, en 2007, avait dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Hein, à l'époque, la dette, c'était 98.
Ça fera bientôt 20 ans.
C'était 98% du PIB. Et Sarkozy avait augmenté la dette de 600 milliards. Alors, imaginez-vous dans quel État est la France aujourd'hui. C'est-à-dire, pour un vrai économiste qui regarde la France en face... La situation, elle est pire que calamiteuse. C'est-à-dire que les Français continuent à être sous perfusion de morphine, de tramadol, de tout ce que tu veux, pour pas voir la réalité. Si en 2027, moi je l'avais dit ici, je suis pas une ultralibérale, loin de là, mais la seule chose qui remettra la France d'aplomb maintenant, c'est Milei. C'est un Milei à la française.
La tronçonneuse.
Mais bien sûr que c'est ça qu'il faut. Parce que là, maintenant, c'est trop tard. Mais c'est trop tard. C'est la faute de Macron. Et c'est la faute des Français qui l'ont réélu en 2022 et qui maintenant viennent lui cracher dessus. Eh ben, je suis désolé. Vous l'avez réélu. Voilà où on en est.
Vous l'avez voulu. Pour vous dire, cette histoire des titres restaurants, des tickets resto utilisables le dimanche, et dans toutes les grandes surfaces, enfin, ça fait réagir, ça met le feu au 32-16. Bonjour Romain.
Oui, bonjour les grands.
Qu'est-ce que vous en dites, Romain, alors qu'on puisse les utiliser maintenant le dimanche, notamment, dites-moi.
Non, mais sur le principe, après, je peux comprendre que les restaurateurs, ça leur fasse mal, c'est sûr, qu'on puisse les passer maintenant le dimanche. Sur le principe, moi, ça me posait pas de problème de pas pouvoir les utiliser le dimanche aux courses. Je m'organisais, du coup, quand j'avais besoin de faire des courses et que je voulais passer ma carte ticket restaurant.
Justement, comment vous les utilisez? Quelle est l'utilisation, à vous, de vos tickets restaurants, alors?
Ben, en fait, moi, je suis commercial automobile. Et du coup, moi, souvent, le restaurant, ça va être le midi. Le midi, on va aller faire un restaurant une fois par semaine ou une fois de temps en temps. Et c'est pour ça que je suis intervenu, en fait, parce que, en fait, je trouve que il y avait eu une intervention d'un restaurateur qui était passé sur votre plateau, je crois, ou chez Apolline, je sais plus, mais que j'avais trouvé hyper intéressante, parce qu'en fait, il disait sur le principe, avec les problèmes de pouvoir d'achat qu'ont les gens en ce moment, je comprenne pas qu'on vienne les embêter avec la possibilité de passer leur carte ticket resto au centre commercial, enfin, pour aller faire leurs courses. Et il disait, par contre, à côté de ça, je comprends pas qu'on ne déplafonne pas les cartes tickets restaurants sur le montant qu'on pouvait passer au restaurant. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai une carte ticket restaurant sur laquelle j'ai beaucoup de crédits dessus, parce que je l'ai pas utilisée pendant longtemps, j'ai mis longtemps à la recevoir. Et
vous avez combien, du coup?
Là, je crois que j'ai plus de 600 euros sur ma carte ticket.
Ah oui, pas mal, dis donc.
C'est énorme, ouais,
ce qui est énorme. Ah, mais c'est 25 euros par jour, donc ça va falloir du temps pour l'écluser, vos 600 balles.
Et c'est ça. Et c'est pour ça que je comprends pas qu'on puisse pas aller dans un restaurant si j'ai envie de me faire vraiment plaisir, de payer un restaurant à 300, 400 euros à quelqu'un si ça me fait plaisir, que je puisse pas aller dans un restaurant et dépenser la totalité, voilà. Donc, je comprends pas
pourquoi l'utiliser comme vous voulez, quoi.
Ça, c'est parce que tout est très réglementé.
Alors, Romain, on va en parler avec Jérôme, qui est du côté de Lyon, qui est technicien audiovisuel. Bonjour, Jérôme.
Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules.
Vous avez entendu Romain, lui, bon voilà, il a réussi à cumuler dessus. Lui, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir en disposer quand il veut, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jérôme, alors?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord comment on peut s'en servir. Moi, j'ai un peu le problème de Romain, puisque dans l'audiovisuel, on travaille souvent le dimanche et les week-ends.
Oui.
Puisque souvent, la convention d'une grande entreprise démarre lundi matin, mais il faut bien tout installer le week-end. Mmh. Et deuxième point aussi, c'est que le gros souci, aujourd'hui, on est dans une période où on cherche un peu les sous. Et le concept même du ticket restaurant, il y a de l'argent qui s'en va. Faut payer vos tickets, faut payer vos serveurs, faut payer vos cartes bleues. Oui. Et en fait, avant, quand j'ai commencé à bosser, avant 2000, on avait des primes de panier. C'était net d'impôts, c'était versé par l'entreprise, c'était tout en bas de la fiche de paye. Et il y avait l'entreprise, ça lui coûtait 15, 20 balles. Et alors, on était en francs. Et on avait 15, 20 euros. Et au milieu, il n'y avait pas des gens qui se servaient dans tous les sens. Et ça, en fait, je pense que c'est pas aux salariés à aider un secteur comme la restauration qui va mal à cause de l'État. C'est... Voilà.
Mais là, vous, vos tickets resto, vous les utilisez comment, Jérôme?
Moi, essentiellement, je les utilise, je vais vous dire, dans les grandes surfaces. Parce qu'on a pareil du mal à les passer. Surtout que ce système est encore plus pervers, puisque de l'argent qui n'est pas périssable, ils ont créé des tickets avec une date de validité.
Ben oui.
Donc déjà, je dis, mais d'où on me dit que mon argent, il est plus valable. Donc s'il est plus valable, il est plus valable pour moi, mais il est valable pour quelqu'un. Il y a quelqu'un au milieu qui les garde.
Oui, oui.
Mais pareil, cartes bleues. La carte bleue a une date de validité, on vous dit, il faut la vider avant qu'elle soit expirée. Mais...
Vous avez pas tort.
On sent quand même l'escroquerie au milieu là dans tout ça.
Ce que je disais, c'est en plus c'est un marché à 10 milliards d'euros qui est abondé en plus par les employeurs, les tickets restaurants.
Est-ce qu'on pourrait pas...
C'est ça, c'est quand même l'employeur. 50%. Alors l'employeur ici surtout parce que ça évite peut-être d'augmenter, de donner du salaire en plus.
Oui, c'est ça.
Salaire qui est chargé si tu le donnes en plus de toute manière.
Dans le cadre d'une.
Allez-y, Romain, oui, Jérôme, pardon.
On sait faire une prime nette d'impôt sur la feuille d'impôt. On est capable de le faire. On le faisait avant.
Oui.
Alors, bien sûr, on peut dire, oui, c'était mieux avant. L'éternel, c'était mieux avant. Mais quand même, on peut quand même se dire que tout progrès n'est pas bon à prendre. Et quand
on a inventé quand même une usine à gaz avec tout ça.
On pourrait peut-être songer, en même temps qu'une grande réforme de l'amenuisement des charges sur les salaires, on pourrait peut-être songer à arrêter ce machin. Encore ce bidule-là, on arrête les petits restos, finito. On redonne du pouvoir d'achat aux salariés sur leur feuille de paye. C'est-à-dire qu'on remet,
avec leur salaire,
on rapproche un peu plus, si possible, au maximum, le salaire brut du salaire net. Et là, tout ira bien. Les gens n'auront pas besoin d'aller dépenser leur ticket resto. Et on arrête avec les tickets resto.
Les charges des entreprises, l'État ne veut pas faire.
Sèchement. Et ça va relancer
Ça sera, à mon avis, l'un des grands sujets de 2027. C'est comment rapprocher le net du brut.
Oui, ça va être surtout la grande foire aux promesses. Alors, et toujours plus, et toujours plus en travaillant moins sur tous les, et alors là, tous les spectres, hein, à part peut-être LR et Zemmour, mais sinon tous les autres, c'est travaillons moins, travaillons moins longtemps, et je vous donnerai du pouvoir d'achat.
Ça dit quand même quelque chose de l'état du pouvoir d'achat des Français, parce que le ministre fait cette annonce ce week-end, la loi elle est pas encore votée, hein. Elle va être votée avant l'été. Donc au mieux, c'est à la rentrée, c'est en septembre. Exactement. Et là, tout le monde s'emballe, c'est génial, etc. Ça dit quelque chose quand même de notre société, c'est-à-dire que c'est une mesurette, c'est simplement il ouvre le truc, mais c'est il y a rien de révolutionnaire et ça devient la une de l'actualité. Oui, donc ça dit quelque chose quand même de notre pouvoir d'achat qui est en berne et qu'on cherche désespérément à grappiller quelques euros.
Ben aujourd'hui, on court après le moindre centime. Il y a une précarisation du peuple français et par rapport à 2027, on va voir quelle va être la vision économique des politiques. Est-ce qu'on continue en augmentant les impôts pour résorber la dette, ou est-ce qu'on baisse enfin ces foutues charges d'entreprise? Est-ce qu'on passe la tronçonneuse, pour reprendre ton expression, dans ces agences de l'État? C'est bizarre, le sujet des agences, maintenant, on fait passer ce sujet comme quelque chose limite de ridicule. Alors
oui,
que si,
rien,
je suis désolé, 140 milliards si tu prends les agences, les ODAC et les services décentralisés, 1200 agences, alors qu'en Royaume-Uni, ils en ont que 300 et ça leur coûte, entre guillemets, que 200 milliards. Et ils ont fait des économies drastiques depuis 2010. On peut pas réfléchir dessus. Il y a besoin d'avoir quatre agences de la santé, cinq agences de l'économie qui font les mêmes missions.
La liste des agences qu'elle devait supprimer.
On a un hôtelier restaurateur avec nous du côté de la Savoie. C'est Giuseppe qui est là. Bonjour Giuseppe.
Bonjour Gégé.
Et bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le restaurateur, alors?
Déjà, moi, ça me dérange pas que les gens puissent trouver un peu plus de pouvoir d'achat, même avec les tickets restaurants, hein. Même en tant que restaurateur. Je comprends, je peux que comprendre. Je veux dire, tout est super cher, donc ça me dérange pas. Personnellement, moi, j'ai décidé de ne pas les prendre du tout.
Pourquoi?
Les tickets restaurants. Parce qu'il y a des commissions là-dessus aussi. Des commissions là-dessus aussi. Je veux dire,
tout le monde se paye sur la bête.
Ah, et... j'ai des commissions là-dessus. J'ai choisi aussi, j'ai fait un choix avec ma femme. On tient un hôtel, restaurant, bar à Montémo. On est proche d'une zone touristique, donc c'est plus facile pour nous d'accepter les chèques vacances, que les tickets restaurants. Donc c'est un choix. Mais après, on va
les chèques vacances. Il y a des coms dessus aussi.
Oui, il y a des coms aussi, mais j'en ai moins. C'est-à-dire que si je commence à prendre les tickets restaurants le midi pour quelques éventuels ouvriers qu'on peut avoir et les chèques vacances pour les quelques familles qui se déplacent, déjà j'ai plus de commissions. Après, il ne faut pas oublier que dans les coins ici, il y a encore les papiers, hein, c'est pas que des cartes, hein, tout ça. Et encore des papiers, donc ça veut dire que je dois faire un bordereau, un courrier recommandé, que je dois envoyer à mes frais, attendre que ce soit traité, avant d'avoir l'argent dans ma trésorerie. Enfin, tout ça, ça nous gonfle, hein. Donc on fait des choix. Mais... Et juste pour revenir à ce que disait tout à l'heure Barbara, pour qui j'ai beaucoup de respect, on n'est pas tous des restaurateurs à faire de la merde.
J'ai pas dit ça, hein.
Mais on entend souvent ce discours qui revient sur le restaurateur qui se gave. Aujourd'hui, on va au resto, on n'a pas ce qu'il
faut. Non, c'est pas ce qu'a dit Barbara. Barbara disait qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup trop de restaurants qui ouvraient aussi aujourd'hui.
Exactement.
Et malheureusement, la qualité
Disait que c'était trop cher.
N'était pas tout le temps au rendez-vous pour le prix qu'on payait.
Quand vous pouvez mettre dans les 50, 70, 80 euros le menu, peut-être qu'effectivement, dans certains cas, vous allez avoir une certaine qualité, mais quand vous êtes dans la petite classe moyenne et que vous pouvez mettre 15, 20 max, vous avez énormément de propositions de restaurants, mais excusez-moi, la qualité, elle est vraiment pas là toujours à ces prix-là.
Nous, on est une petite maison qui avons fait le choix, puisqu'on peut pour le moment, de ne pas se payer, ne pas prendre de dividendes sur les premières années, donc de essayer de faire de la qualité. Moi, j'ai mon comptable qui revient au bout de 3 mois d'activité qui me dit, par contre, faites attention parce que je vois bien que vous faites pas de la merde, mais vous margez pas assez.
C'est quoi votre plat du jour? Il est à combien?
Quand j'ai un plat du jour, parce que le plat du jour, on peut pas toujours le faire dans le coin. Encore une fois, c'est une zone touristique. Donc, pour avoir un plat du jour, il faut que ce soit rentable. Donc, on vend un maximum. Et on peut pas le faire tous les jours. Mais quand j'ai des ouvriers, la formule du jour, elle est à 16 ou 17 euros en fonction des arrivages, entrée, plat, dessert.
Entrée, plat, dessert, oui, c'est bien. C'est bien.
Et attendez, 16, 17 euros entrée, plat, dessert. Et on essaye de travailler au maximum avec le local, parce qu'on a de la chance d'être sur un vivier local qui est intéressant. De faire tous les jours de la cuisine, hein. Je sors pas une barquette et je la mets au micro-ondes ou au four. Donc tout ça, même dans le menu du jour, c'est pas toujours évident et on marche pas toujours. Et pour que ce soit intéressant, il faut de la masse. Et la masse, à midi, dans une zone comme la mienne, elle n'y est pas toujours. C'est plus sur les périodes touristiques, où ça va être cet été, où on va se faire cartonner. Et voilà, donc pour moi, prendre des tickets restaurants, gérer en plus le sujet tickets restaurants au quotidien, au-delà de tout l'administratif qu'on a, ça me gonfle aussi.
Ça me gonfle aussi.
Et encore une fois, on n'est pas tous là à essayer de marger un maximum sur des produits de mauvaise qualité.
Alors,
Parce que même si c'est pas ce que vous avez voulu dire directement, Barbara, le problème, c'est que c'est une occasion de plus pour certains de remuer le couteau là-dedans, comme si on était tous en train de faire que ça.
Non, bien sûr.
On roule pas sur l'or, mais malheureusement, il y a des gens qui vont pas l'interpréter comme.
Alors, Giuseppe, attendez, parce qu'il y a Bruno qui voulait réagir.
Tout à l'heure, Olivier, il a dit quelque chose, il a dit, cette mesure-là, on annonce ça ce week-end, et puis en fait, ça sera voté dans plusieurs mois. En fait, Olivier, t'as bien compris que comme là, ils arrivent pas à régler le problème de l'essence, et que là, ils sont en train de nous sortir un truc.
Ils sont en train de nous sortir du temps.
Parce qu'aujourd'hui, le sujet cas, et c'est le sujet que va rencontrer l'auditeur à l'instant, parce que.
C'est ce que je voulais dire, ne soyons pas dupes.
Voilà, je pense que le sujet qu'on a tous, c'est qu'aujourd'hui, là, en fait, si la guerre continue à durer et que le prix commence à monter, et puis on est quasiment tous sûrs que s'il monte, il va pas redescendre au bas au prix où il était avant, ça, c'est un classique. Sachant qu'on vient d'entendre que Total avait fait des milliards de bénéfices dernièrement, en s'engraissant un peu sur le dos de la bête.
Ouais, mais
Total
justement, et Giuseppe, je voulais vous poser la question, et on y viendra tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission, mais la répercussion de la hausse des carburants, justement, pour vous, comment ça se passe?
Pour le moment, ça se tient encore, mais moi, je vais voir là, après, parce que là, pour le moment, on a décidé de fermer deux petites semaines, mais je pense que ça va se répercuter sur les frais de transport, hein, sur les livraisons, on va le voir, enfin, ça va se répercuter quand on va être livré, surtout nous, on est à 1200 mètres d'altitude. Donc quand on va faire les commandes pour réouvrir, je pense qu'on verra nettement l'augmentation. Et même en étant le plus proche possible de la réalité avec les marges et de la cohérence, hein, sans vouloir faire je sais pas quoi sur les prix, on peut toujours pas vendre un burger même si c'est du bon charolais fait maison machin, enfin on peut pas le vendre à 30 balles, personne
va acheter
un burger à 30 balles.
Giuseppe,
c'est comme ça, c'est la réalité.
Merci de votre témoignage, Giuseppe. À Montalmont,
vous êtes aujourd'hui
au Télé Restaurateur?
Non,
il va rouvrir.
On
vos
a vacances. Pris un tout petit peu de vacances parce que c'est un petit village fort charmant et qui est
Montalmont en Savoie.
Comme qu'il y a des périodes de creux, et là, pour
c'est
le moment,
un peu là, c'est,
on va reposer un petit peu et puis réouvrir le 13.
Là, pour le printemps. Merci, Giuseppe. À bientôt dans les GG. Merci de votre fidélité. On a posé la question. Voilà, autoriser les tickets resto le dimanche. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est utile ou pas? On va voir. Oui, enfin, à 64%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Premier casino dans le département du Maine-et-Loire, c'est grâce à une modification de la loi de 2024, donc il va y avoir des machines à sous, il va y avoir des tables de jeu, ça crée de l'emploi puisqu'il y aura une soixantaine de personnes, bar, restaurant, terrasse, ça sera ouvert 7 jours sur 7. De 10h à 2h du matin, voire même jusqu'à 4h du matin les week-ends.
Oui, Saumur ne sera plus la capitale du cheval, mais aussi la capitale du jeu. Alors, autour de la table, il y a un spécialisé casino, parce qu'il en a beaucoup fréquenté. Je pense que c'est à lui de nous dire ce qu'il en pense. Déjà, c'est vrai qu'avant, c'était dans les villes thermales qu'on installait des casinos. Là, c'est à Saumur, qui est une ville aussi touristique, parce qu'il y a le Cadre Noir, etc. Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un projet très ancien. Mm-hmm. C'est un peu un serpent de mer, on en parle depuis 15 ans. J'ai pas vérifié, mais je crois que c'est dans les locaux de l'ancienne Banque de France.
C'est ça.
Qui est un immeuble extrêmement prestigieux.
Le symbole est rigolo.
Et qui s'y prête parce que le bâtiment vraiment est statutaire et il y a des grands espaces. C'est un tout petit peu en dehors du centre-ville, ce qui fait qu'on pourra stationner. Bon, il ne faut pas en faire toute une histoire. Ça crée de l'emploi. Le jeu, ce n'est pas forcément que l'enfer du jeu. Il y a aussi ce qu'on appelle le jeu récréatif.
C'est une distraction, oui.
Voilà, il y a un côté convivialité. Il y a des jeux, par exemple, comme la boule. Qui est un jeu où, évidemment, on l'appelle dans le monde du jeu la grande faucheuse, parce qu'en fait, c'est un jeu conçu vraiment au profit du casino, mais ça peut être très convivial, ça fait des souvenirs. On peut toujours aussi s'arrêter légèrement en gain, parce qu'il y a en général toujours un moment où on est en gain au casino, la difficulté c'est de s'arrêter, parce qu'on croit toujours, comme me disait un ami qui est un très très gros joueur, on a d'ailleurs joué ensemble avec le président Macron, en son temps, quand il était inconnu au Touquet, il me disait, avant d'aller faire une partie, il faut que tu casses une baraque, mais pas deux baraques. et donc, c'est quelque chose qui crée de l'emploi. Les associations d'addiction ont leur légitimité, mais faut quand même privilégier la liberté. Personne n'oblige les gens à aller dans le casino, personne n'oblige les gens à se ruiner. Et puis, il faut savoir aussi que le suivi de l'addiction dans le cadre de la sécurité sociale est quelque chose qui est même pris en charge. Donc, il y a toute possibilité de faire face raisonnablement. Et non, c'est un beau projet qui va dynamiser, parce qu'encore une fois, ce bâtiment qui était en quelque
dynamiser
sorte...
Dynamiser ou ruiner des gens aussi.
Oui, et bien sûr, mais ça, c'est la liberté.
Bah, c'est, oui, Joël Dagosséry.
Non, c'est génial, cette sécurité sociale, tout d'un coup, qui va encore prendre en charge un projet initié pour ruiner les gens.
C'est toi qui payes tes impôts.
Oui, mais complètement. Non, moi, je trouve qu'on en est presque aux emplois jeunes. Parce que je crois que c'est des régions dans lesquelles on n'arrive plus à dynamiser l'industrie. Et donc, on crée des emplois avec les jeux. Et quand on a un problème de pouvoir d'achat, moi, je pense que créer un tel commerce où les gens peuvent être amenés à dilapider quelque part le peu d'argent qui leur reste, je ne vois pas derrière un projet économique vraiment viable et même presque éthique. Donc, ok, ça va créer de l'emploi, ok, c'est bien, mais moi, je crois que la France a besoin d'industrie et on en manque. Alors, on fait des dérogations, parce que là, c'est une dérogation,
oui, mais
du
c'est
coup.
C'est le tourisme qui marche en France.
Oui, d'accord, mais, mais oui, mais il faudrait quand même un moment.
C'est aussi une belle croissance.
C'est une industrie, le tourisme, pardon. C'est
oui,
pas...
c'est une industrie.
Et l'industrie du jeu aussi. Oui, c'est une industrie, c'est des emplois, des milliers d'emplois en France.
Aux États-Unis,
le casino en ligne en France, c'est 4 milliards et demi de chiffre d'affaires.
Oui, mais on échoue à créer d'autres types d'industries. Alors... C'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire?
Toi, tu t'inquiéterais d'avoir à côté de chez toi un casino qui ouvre? Non, franchement.
Je m'en inquiéterais pas.
Ce serait la liberté.
Je préférerais quelque chose qui va aider à recréer du pouvoir d'achat que quelque chose qui va venir prendre.
Si on précise juste le cas du casino donc nouveau de Saumur, il faut savoir que les gens qui voulaient jouer au casino, sinon, il fallait aller dans la Vienne, à la Roche-Posay. C'était vraiment une grosse équipée, surtout pour revenir. Ou alors, la Baule et Pornichet. Donc, c'était une zone vierge en matière de casino, très très loin à la ronde.
Barbara.
Des enclaves.
Non, sans vouloir faire les rabat-joie, vous connaissez, c'est pas du tout mon style. Il y a quand même en France aujourd'hui environ 1 million de personnes qui dépassent leurs limites financières dans leur addiction au jeu. Et sur ces 1 million, il y en a 370 000 qui sont en situation de risque pathologique.
Mais c'est vrai.
Avec des familles derrière qui sont détruites. Parce que souvent, bon, si c'est que l'individu, il vit tout seul, il se ruine, il finit à la rue, bon, c'est son problème. Mais derrière, il y a souvent des familles, des enfants qui doivent subir l'addiction de leur père ou de leur mère.
Oui.
Donc, moi, ils ouvrent des casinos s'ils veulent, hein. Enfin, il faut quand même prendre en compte cette réalité, d'autant plus que cette réalité, elle se rajeunit. On a de plus en plus de jeunes qui sont addicts aux jeux, en particulier via les jeux en ligne, les paris sportifs et les jeux en ligne. Donc du coup, je ne crois pas que ce soit dans les casinos où on rencontre plutôt des personnes âgées de plus de 50 ans, excusez-moi, hein, parce qu'il faut avoir le temps d'aller passer des soirées au casino.
C'est beaucoup de retraités.
Je pense que quand tu es addict au poker, tu vas pas jouer au poker dans les salles comme ça, tu vas jouer dans le poker en ligne ou dans des endroits avec des vrais joueurs qui sont vraiment dans le pognon. Et donc, je crois pas que la vitrine du casino en soi me dérange pas, parce que c'est pas cette population-là, je pense, qui est vraiment addict. En revanche, est-ce qu'on fait assez pour les jeunes qui sont en train de tomber dans cette addiction à travers les jeux en ligne?
Alors, sachant que les gens vraiment qui se ruinent en France majoritairement, c'est peut-être surprenant, ce sont les jeux de grattage dans les bistrots.
Oui.
Là,
il y avait le keno aussi, tu sais, alors, qui tournait en continu.
Le rapido,
tu as raison.
Est-ce que l'État prend des taxes?
Bien sûr.
Alors, faut continuer à être addict, les amis. Allez-y, continuez, vous enrichissez les
dames. Un peu rabat-joie, les filles.
Oui, c'est notre rôle.
Parce que, sincèrement, j'ai été dans un casino, déjà.
Oui, tout à fait, moi aussi.
C'est plutôt un moment de distraction, tu vas en
venir. C'est ennuyeux.
Il n'y a pas d'obligation, tu sais que, Joël, il n'y aura pas d'obligation à aller jouer à Saumur. Tu sais que les Saumurois pourront passer devant le casino sans y entrer. C'est la liberté de chacun.
Moi, j'ai fait de la machine à sous au bout de 2 minutes. C'est un ennui.
oui. Bon,
c'était... Non, mais il faut pas faire la machine à sous, il faut faire la roulette,
la roulette,
boule,
le blackjack.
Le blackjack, c'est ça qui est rigolo.
Mais la vérité,
c'est comme jouer au loto, quoi.
Ce qu'on doit
non,
dire.
Non, mais non, parce que là, le blackjack et la roulette,
il y a déjà une aussi au blackjack.
Il y a une interaction.
Il
y a une interaction, il y a du personnel, il y a un cadre. L'entrée est gratuite, il y a pas de quoi se plaindre.
T'as des bars, t'as des restaurants, tu peux consommer, tu peux passer un bon moment.
Il y a
des spectacles.
Mon papa jouait au loto pendant très longtemps. Et mais vraiment joueur, c'est-à-dire dans le sens où il faisait des statistiques, des probabilités, ce qu'on appelle des probabilités parce qu'il était, il était comptable, donc il adorait ça. Et donc vraiment, il jouait au loto. Mais il faut dire la vérité, nous, on est dans une famille très modeste, on est tombé dans des grosses difficultés financières. Et la vérité, c'est que le loto, pour quand tu ne vas pas bien, même espoir. Dans un pays qui voilà, c'est le seul quelque part espoir que tu as de te sortir de ta condition. Et donc dans un pays qui va pas très bien, comme le nôtre, où on a du mal avec l'emploi, on a du mal avec le fait de s'enrichir par le travail, je trouve que rajouter encore des casinos, etc. Bah, Je vois pas ça comme un signal
positif.
C'est vrai
que la Française des Jeux est une des entreprises les plus florissantes de France.
Exactement. C'est d'ailleurs pour ça, je crois qu'ils veulent la démanteler ou la vendre.
Non, elle est cotée en bourse, la FDJ.
Ah, oui,
la Française des Jeux est cotée en bourse. Et puis, ça rapporte de l'argent à tous ceux qui ont placé dans la Française des Jeux.
Non, mais ce que dit Joël, c'est que c'est le symptôme d'un pays qui ne va pas très bien.
Oui, parce qu'en réalité, si tu pouvais, par le travail, t'en sortir, t'enrichir, machin, etc., peut-être que tu aurais moins de joueurs.
L'ascenseur social cassé pousse à jouer. Ou plus d'argent à jouer.
Ou plus d'argent à jouer.
Non, mais quand tu vois même les jeux sportifs sur les trucs des matchs de foot, ça a attiré vers le jeu des jeunes qui jusque-là n'auraient peut-être pas pensé à jouer. Oui. Parce que moi, mon grand-père, pareil comme toi, moi, mon grand-père, c'était le turf. Il regardait, par contre, il étudiait les journaux avec les chevaux et tout. Ouais. Il jouait un peu au loto et il aimait beaucoup le foot. Mais si aujourd'hui, il avait su qu'il y avait des trucs en ligne, peut-être qu'il aurait joué aussi au match de foot.
Mais ça, c'est pas seulement une catégorie sociale qui joue. Tout le monde joue, même des gens aisés. Parce que c'est le plaisir et l'excitation du jeu. C'est en se disant, est-ce que je gagne, etc. Surtout, tu sais qu'aujourd'hui, on parie sur la guerre. Hein.
Ah, mais tu peux
on
même
parie
avoir...
sur les municipales.
Tu
on
peux même avoir des gens riches casino, qui se ruinent. Hein. Hein.
La bourse, c'est le grand casino.
Exactement.
Oui. Il y a deux problèmes avec le casino. Quand ils s'entrecroisent, deviennent effectivement très très dangereux pathologiquement. La première chose, c'est que le joueur va toujours jouer, par rapport à ce que disait Olivier à l'instant, au niveau de ses moyens. C'est-à-dire qu'il va hisser le jeu pour avoir le frisson au niveau de ses moyens. Et la deuxième chose, évidemment, c'est l'accoutumance, la dépendance, qui fait que jouer au niveau de ses moyens avec la récurrence, la dépendance pathologique, là, ça devient très grave, on se ruine.
Mais tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, ça rejoint ce que dit Joël. C'est-à-dire que, et là je parle sous le contrôle d'Emmanuel, parce que c'est une région que tu connais bien, le Maine-et-Loire. Apparemment, Saumur est l'une des villes du Maine-et-Loire, ou c'est la ville qui est le plus touchée par le chômage en ce moment. Oui. Donc à partir du moment où tu es dans une ville qui est le plus touchée par le chômage et que tu as un casino qui ouvre, tu crées effectivement
de l'emploi
pour ceux qui sont dans le domaine de la restauration, du tourisme. Donc peut-être que tu peux avoir un cercle vertueux, mais en revanche, pour une personne qui se retrouve au chômage, comme disait Joël, tu vois, qui se dit, ah ben j'ai le casino qui est là, j'ai 50 euros sur moi. Bon, allez, je vais tenter le coup. Si tu gagnes une fois, et là je m'adresse aux joueurs,
c'est vrai.
Tu peux dire, ben je peux y retourner.
Tu rejoues toujours.
Et je rejoue.
On appelle la chance des débutants.
Et là, oui, ce qui n'est pas prouvé scientifiquement, mais tu peux ensuite tomber dans une espèce de spirale qui est celle de l'endettement.
Pourquoi la chance des débutants quand même un petit peu scientifiquement? Parce que le débutant va faire n'importe quoi, alors que le joueur, à force de perdre, va lisser son jeu, un peu comme un homme politique, et là, il va perdre tranquillement.
Sauf qu'aux machines à sous, t'as pas la chance du débutant, quoi. C'est le coup de poing.
Ah, si, quand même, un petit peu, quand même.
Oh bah,
le problème du casino.
Pourquoi tu fais plus comme ça, maintenant?
Pour avoir joué de temps en temps au casino, le problème du casino, c'est de savoir s'arrêter.
Alors on a Eric.
Même quand tu gagnes, c'est à quel moment tu te dis c'est bon, j'ai assez gagné, je peux m'arrêter. Et comme on prend un peu d'alcool en même temps.
Et voilà, on a Eric qui est avec nous, qui nous appelle des Alpes-Maritimes de Bar-sur-Loup. Bonjour Eric.
Bonjour à tous, bonjour Alain. Nous nous connaissons, on s'est rencontrés plusieurs fois au Salon du Livre à Nice. Vous vous souvenez, on était venus en moto avec mon épouse. Vous étiez tout seul avec Anaïs parce qu'apparemment Olivier était encore dans les bras de Morphée. Mais bon, Monsieur De Villiers, je suis très content de vous avoir à la radio. Et Barbara, je sais que vous descendez très souvent dans le Midi et nous serions très heureux de vous accueillir dans notre petite entreprise à Bar-sur-Loup. Je fais vite, hein.
Avec
Anaïs,
grand plaisir.
Coordonnées. Vous pouvez venir quand vous voulez, vous serez très bien reçu. Parce que
avec grand plaisir.
Parce qu'on a toujours promis qu'il viendrait nous rendre visite, mais il n'est jamais venu.
C'est vrai.
Bar-sur-Loup, c'est très joli.
Mais alors, attendez, Eric, si je me souviens bien, c'est vous qui avez travaillé dans les casinos aussi.
Voilà. Exactement. J'ai travaillé dans un casino qui est à côté d'un fast food à Nice.
Vous voyez, oui, sur la promenade des Anglais, bien sûr.
Voilà,
ouais.
Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas citer le nom. J'ai rencontré beaucoup de personnalités, aussi bien politiques que de l'audiovisuel. Mais dire que, monsieur De Villiers, je m'excuse, hein, je suis en contradiction avec vous, dire que ça dynamise une région, c'est faux. C'est totalement faux. Ça ruine les gens. Ça ruine les gens. J'ai vu des gens déjà pas dans tous. La misère et continuer à être dans la misère. Ne dites pas que c'est les gens qui gagnent, c'est totalement faux. C'est le casino qui gagne. Le casino.
Ah bah oui, ah oui, ça, ah oui, bah parce que sinon, oui, ça, c'est personne se lancerait là-dedans. Non, mais la seule manière de gagner au casino, c'est d'acheter un casino, bien sûr.
Mais voilà. Attendez, Eric.
Alors moi, je vais vous dire, oui. Les meilleures journées, c'était les jours de paye. Les jours de primes de rentrée, oui, les primes de Noël, les 13e mois, alors là, on faisait carton plein.
Oui.
On a vu des gens aux machines rester assis parce qu'ils persuadés que la machine allait payer, ne pas aller aux toilettes. Et vous imaginez ce qu'on avait par terre sur les sièges.
Ah bon,
mais c'est une catastrophe. Oh c'est...
Ouais,
mais,
c'est
mais vous pouvez pas vous imaginer, j'ai vu des choses horribles. C'est ce que j'expliquais à votre collaborateur.
Mais c'est que, en fait, vous avez une vision quand même très négative.
Bah, il a vu guerre à l'intérieur.
Hein. Allez-y, bah, oui. Qu'est-ce que vous avez vu vous? Quel exemple vous alliez
par
nous
exemple,
donner, Eric
exemple, j'étais à la caisse. On avait un couple de petits jeunes qui venaient de se marier, qui avaient eu de l'argent pour leur mariage. Ils venaient de plus du Nord, je ne sais plus d'où. Ils ont commencé à jouer. Ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner, mais il y a des fois, on a envie de leur dire, mais arrêtez. Ils ont tout bouffé. Ils sont partis, ils pleuraient tous les deux, ils n'avaient plus un rond, plus rien. Ils ne pouvaient même plus rentrer chez eux. Mais non. Vous savez, à Nice, on les voyait arriver, hein, à part les mémés, à part, voilà. Et puis quand ils n'ont plus d'argent, ben, ils viennent, puis ils restent au casino, puis ils regardent. Moi, j'ai vu des gens assis devant la machine ne pas bouger, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je sais pas. Moi, je n'ai jamais joué. Jamais. Je peux aller dans un casino, je vais aller boire un verre, je vais aller manger au restaurant.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, Eric, c'est qu'en installant le casino à Saumur, on risque de créer beaucoup plus de désespoir ou de misère qu'autre chose. Enfin, c'est la vision que vous en avez, quoi, en fait, Eric, c'est ça.
Surtout comme dit.
Plusieurs fois à Las Vegas, moi je vois les gens jouer, je n'ai jamais mis un dollar dans un casino.
Alors Eric, on a un autre exemple qui vient d'arriver, celui de Pascal qui nous appelle de Gironde. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour les GG.
Vous étiez addict au jeu, vous Pascal?
Ah là là, bon, parlez pas, c'est une cochonnerie, je vous assure, franchement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, alors pour tout vous dire, moi j'ai commencé, la première fois j'ai gagné 3000 euros au casino, avec 10 euros. Hein. Franchement, c'est facile parce qu'on se dit... Ah, c'est génial, c'est bien. Et puis on y retourne tout doucement, puis on tombe dans un engrenage. Vous pouvez pas savoir, c'est
vous
dangereux.
Vous avez perdu combien, Pascal?
En tout et pour tout. S'il fallait, je compte, je pourrais franchement m'acheter une belle voiture neuve, quoi, avec des années. Mais le pire de tout, c'est que on devient menteur. On emprunte de l'argent aux gens, on leur ment. Et j'ai quand même été, moi, sur le compte de mes enfants, leur livret, prendre de l'argent sur leur livret pour aller jouer.
Ouais. Pascal, c'est vous qui aurez terminé notre discussion.
Merci Pascal.
Un casino à Saumur, on en a parlé. Merci à Eric et à Pascal. Est-ce que c'est tentant ou est-ce que c'est effrayant? C'est tentant, c'est ce que vous dites quand même, à 60% effrayant, à 40%. Oui,
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sous les conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices.
Alors, va-t-on vers une génération sans tabac? En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe au Royaume-Uni, puisque nos amis anglais ont décidé d'interdire la vente de cigarettes à toute personne née après 2008, c'est-à-dire ayant moins de 18 ans aujourd'hui. Il s'agit du deuxième pays au monde à instaurer ainsi une interdiction générationnelle après les Maldives. Toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009, et qui ont donc actuellement 17 ans ou moins, ne pourront jamais acheter légalement de cigarettes. C'est assez fort comme mesure. Est-ce qu'il faut faire la même chose? Créer une première génération sans tabac, protégée d'une vie entière de dépendance et de dommages que commet bien sûr le tabac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Laura?
C'est bien, à condition qu'on devienne beaucoup plus strict sur tout ce qui est les vapotes. C'est-à-dire qu'on avait eu un sujet la semaine...
Dans le vapotage.
Voilà, on avait eu un sujet la semaine dernière.
Dis celle sur, qui vapote.
Sur, oui, complètement. Mais moi, je suis pas 2008. Je suis bien avant. Je suis siècle dernier. Mais c'est-à-dire qu'il faut pas, que les... Ben oui, siècle dernier.
T'es génération 78?
Non,
78.
C'est Charles qui apporte quoi. Génération 93?
Ouais. Je suis une millennials. Non, mais on avait le sujet la semaine dernière où justement...
Oui, mais d'accord, mais laissons passer de côté le vapotage. Est-ce que c'est une bonne idée d'interdire finalement définitivement le tabac? Parce que c'est ça, bah, derrière.
Écoutez, pourquoi pas? Ou alors faire directement...
Ou est-ce que c'est pas liberticide?
Il faut alors, ou alors directement supprimer, enfin faire passer le paquet de 10 à 20 euros, arrêter avec les hausses de petits centimes, faire un truc franc
et dur. Le paquet est à 12 ou 13 hein, maintenant.
Hein. Ouais, bah, tu fais passer là tout de suite à 20, je pense qu'il y en a qui vont s'arrêter de fumer tout de suite maintenant.
Charles, est-ce qu'il faut effectivement interdire la vente de cigarettes à partir d'une certaine génération pour que ça s'arrête?
Pourquoi pas?
Oui, toi t'es pas contre.
Pourquoi pas? Parce que... même si j'ai eu énormément de plaisir à fumer, je suis content d'avoir arrêté. Et je connais des gens qui ont eu des cancers, certains qui ont survécu, d'autres pas. C'est quand même un truc, voilà, qu'il faut essayer d'anéantir purement et simplement. Et puis on voit bien que maintenant que c'est un peu sorti de la société, on en mesure toute l'absurdité de la cigarette quand même. Donc, le libéral libertaire que je suis ne serait pas hostile à cette mesure.
Oui, ça va à l'encontre de tes propres convictions.
De salubrité publique. Si quelqu'un veut vraiment fumer, il trouvera.
Ah ben là, il pourra plus. Ah ben non. Là, parce qu'il aura grandi. Oh. Il aura grandi dans un monde sans tabac.
Ouais, tu vas pour, ouais, tu vas à Gare du Nord, tu te trouves
si
un paquet.
Si quelqu'un veut,
mais aujourd'hui,
fumer, il trouvera.
Mais aujourd'hui, là, vous parlez d'une situation. Mais si tu pars d'une génération qui n'aura jamais la possibilité d'acheter la cigarette, forcément la cigarette. Il va s'éteindre définitivement.
Mais de toute façon, on parle dans le vide. Il y a tellement de lobbyistes derrière et l'État se fait tellement d'argent sur les clubs que.
Le Royaume-Uni a décidé à réussir.
Regarde-moi, par exemple, j'ai piqué les cigarettes de mon père. J'ai fumé une cigarette. Il est plus vivant, donc je peux le dire.
J'avoue maintenant.
J'ai piqué sa vogue menthol pour la fumer dans les toilettes. Donc, c'est-à-dire que si j'avais été dans cette génération interdite à la cigarette, si tu as quand même quelqu'un, un ami plus âgé, un parent ou quoi que ce soit, tu peux quand même...
Oui, mais tu n'auras plus le droit d'acheter.
Oui, mais il y aura toujours des gens qui vont te le vendre sous le manteau ou un grand frère ou un ami qui ira acheter au tabac pour toi. Donc, tant que... Bah, si, ça, après... dans 50 ans, peut-être qu'il y aura plus. Mais je veux dire, ça va pas partir comme ça. Et moi, je suis un peu comme Charles. C'est que j'avais deux trucs qui se battaient. Il y avait mon côté liberté qui disait, mais attends, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a le côté qui dit, attends, on vit quand même dans une société collectiviste. Tant que je vis dans cette société, j'aimerais que ce soit interdit. Le jour où on pourra chacun récupérer 50% de notre effort et que chacun va payer sa sécu, à ce moment-là, oui, si t'as envie de fumer et te cancériser, c'est ton problème, tu vois. Mais là, aujourd'hui, on est tous, entre guillemets, dépendants les uns des autres. Donc moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ce qui est amusant, voilà. C'est que, on va donc quand même, on sent que c'est un peu le sens en ce moment d'histoire, c'est on va vers une interdiction du tabac. Il y a des villes déjà qui interdisent le tabac, New York, la cigarette. Il y a de plus en plus d'endroits interdits à la cigarette. C'est de plus en plus compliqué de fumer pour les fumeurs. Et puis par ailleurs, on va sans doute dépénaliser le cannabis, comme on le fait d'ailleurs dans d'autres pays.
Mais
on va y arriver, vous allez voir.
Non,
donc on arrivera à un monde où on pourra fumer un pétard et on pourra l'acheter. Les bureaux de tabac ne vendront plus de tabac, mais vendront des pétards. Alors est-ce que c'est mieux, pas mieux, mais c'est ça qui est amusant.
Ni l'un ni l'autre.
Non, mais reconnaissez que c'est
paradoxal.
C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on est impitoyable aujourd'hui. On a raison sans doute sur la cigarette. Et en revanche, on se dit, finalement, le cannabis, comme tout le monde en fume, il va falloir peut-être un jour autoriser.
Je sais qu'on est un peu incohérent en France, mais là, je pense qu'on serait cohérent. Tu ne vas pas interdire la cigarette et puis légaliser le cannabis. Ça n'a aucun sens.
Moi, je pense qu'ils en sont capables.
Ben oui, parce que on va dire que le cannabis, ça provoque moins de cancer. Enfin, on trouvera toujours des raisons objectives de dire que c'est moins grave que le tabac, tu verras.
Et ils vont te dire que oui, mais on rouspète pour le trafic de drogue qui fait de la délinquance et ça fait de l'argent parallèle, etc. Là, on crée des...
Et après, certains vont dire, mais pourquoi pas interdire l'alcool? Parce que
là, on crée des actifs.
Est-ce qu'il y a quand même pas un problème de liberté? C'est quand même assez liberticide. Bien sûr que c'est mauvais pour la santé. Il y a plein de choses mauvaises pour la santé. Est-ce qu'on doit interdire définitivement un produit parce que il peut être mauvais pour la santé si on en consomme.
Mais on en a plein, mais regarde la liste des produits qui sont interdits en France.
T'as des
médicaments qui sont autorisés à l'étranger, qui sont interdits ici. Donc, je vois pas pourquoi la cigarette échapperait tout d'un coup.
Non, mais c'est déjà très restreint. Est-ce qu'il faut aller vers une interdiction totale?
Si tu veux vraiment une liberté pour tout le monde et quelque chose de respectueux pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fumes une cigarette, toutes les maladies qui peuvent découler d'un tabagisme actif ne sont plus pris en charge par la sécurité sociale.
Ouais, et là, si
tu vois, en fait, tu peux réfléchir à plein de choses, mais je peux comprendre aussi le positionnement de Joël. Moi, je suis pour qu'on interdise.
Mais
je peux.
Non, mais c'est marrant, parce que tous les trois, vous êtes pour l'interdiction totale.
Parce que la
clé, même temps, vous avez des grands discours sur les libertés. Mais bien sûr, c'est pas bon. Il y a plein de choses qui sont pas bons. Pardon,
oui,
je suis désolé. Le sucre, c'est pas bon.
Pour moi, on peut pas le comparer à l'alcool, par exemple. Je suis désolé quand même, le vin, etc. Il y a autre chose que la dose d'alcool dedans. Les gens ne boivent pas
que pas la même dépendance,
pour se shooter à l'alcool.
Tu tombes plus vite fumeur compulsif que buveur compulsif.
C'est quand même un truc où tu fumes quand même essentiellement pour t'envoyer un coup de nicotine dans le cerveau. Mm-hmm. Bon,
Je reprenais l'argument de Joël sur la santé. Oui. Il faut faire attention à ce type d'argument parce qu'il y a beaucoup de produits que nous consommons qui sont mauvais pour la santé. Si on commence à interdire tous ces produits-là, c'est un problème de liberté aussi.
Mais par destination, normalement, ils ne le sont pas. Si c'est en surdose qu'ils le deviennent. Enfin, par exemple, si on prend le sucre, souvent on fait le comparatif avec le sucre. Le sucre, en temps normal, bien consommé, t'as pas de problème. Mais en surdose, ça devient un problème. La cigarette,
c'est un problème dès la première
fois. Ne serait-ce que la composition du produit en lui-même, bon,
tu
peux pas dire que c'est hyper sain. Donc non. Et en plus, pour la cigarette comparée à l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool, normalement, quand toi tu bois ton verre de rouge, enfin, je veux dire, moi j'ai aucun risque d'avoir un seul gramme dans le sang, normalement, à moins que...
Non, mais tu peux subir les conséquences de ton alcoolisme.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Pardon, mais les violences conjugales, c'est très lié à l'alcool.
C'est vrai aussi, mais la cigarette quand même, ne serait-ce que même dans le goudron, la nicotine, enfin, tu vois, rien qu'à la fabrication, tu te dis non, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que l'autre, c'est du raisin fermenté, bon, je ne le mettrais pas.
Mais quand vous parlez que du vin, ça vous arrange. Mais pardon, quand on parle d'alcool, c'est les alcools forts, c'est aussi les gens qui se mettent minables, c'est l'alcoolisme, c'est le drame de, enfin, c'est des drames humains, l'alcoolisme.
Moi, ça diminue l'alcool, la consommation de l'alcool diminue chez les jeunes. Donc, il y a aussi ça. Et
la cigarette aussi, ça diminue.
Donc,
La cigarette, ça diminue aussi.
Hein. Si, ça diminue.
Ça diminue, notamment chez les jeunes qui se mettent maintenant à vapoter.
Il y a que 3% des jeunes jusqu'à 17 ans, je crois, qui fument. Mais le problème, c'est pour ça que je parlais du vapotage, c'est qu'en parallèle, t'as tout un commerce avec des produits rigolos qui font des multicolores quand tu tires dessus, au goût, machin et tout. En fait, ça devient un truc récréatif de la même manière que nous, on pouvait avoir les pièces en chocolat après l'école. Ben, c'est le truc récréatif. Donc, en fait, tu peux pas juste faire ça. Mais laisser libre cours à tout un nouveau marché que peut être le vapotage pour les jeunes, puisque les ravages, on peut pas vraiment encore bien les connaître. On sait qu'il y a des trucs pas bons. On sait que de toute façon, il vaut mieux respirer un truc pur tout court que de mettre n'importe quoi dans tes poumons. Mais on n'a pas encore conscience de tout ce que ça peut donner comme dégâts, parce que le truc, allez, ça fait peut-être quoi, 5 ans que c'est vraiment, qu'on voit tout le temps quelqu'un avec une vapote, des nuages de fumée de dragon, des trucs lumineux. Donc. Tu peux pas, encore une fois, c'est exactement le même parallèle que t'as fait avec le cannabis. Tu ne peux pas interdire fermement et drastiquement un produit quand t'as des dérivés qui sont autorisés à côté. C'est soit, mais c'est un peu le problème de notre gouvernement, c'est qu'à chaque fois, c'est
au-delà même de ce gouvernement.
C'est toujours des fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'on fait un truc, mais on le fait pas complètement.
C'est vrai, mais moi je dis que c'est à tester quand même.
Je suis assez
preneuse de nouvelles idées.
Oui, mais tester, soit tu fais, soit tu fais pas, parce que c'est quand même.
Du slip à la cigarette.
Non, mais c'est radical. C'est-à-dire que si tu décides que toute personne née après une certaine date ne pourra jamais de sa vie acheter des cigarettes légalement, c'est pas un test. Tu y vas ou tu y vas pas.
Pas dans ce pays là.
Et tu fais pas de vapote et d'interdiction à la vapote non plus. Enfin, j'estime que tant que tu commences pas, tu peux pas devenir accro. Et en fait, c'est là tout le drame.
Ça marche quand, par exemple, en France, ça marche si t'es à Orléans, mais tu vois, si tu vis sur les côtes et que t'es un frontalier.
Les jeunes de 18 ans, ils vont pas aller acheter à la frontière.
À la frontière, t'achètes ta cartouche, faut te la payer quand même. Hein.
C'est leurs parents qui font ça.
Oui.
Toi, t'as acheté ta première cartouche à quel âge ?
Non, bah non. C'est la question piège. Tu sens le journaliste. Je n'ai jamais acheté de cartouche. Non, j'ai fumé qu'une seule cigarette, celle de mon papa.
Ah bon, une seule ?
Oui, que je lui ai piqué, que je lui ai volé, et puis c'est tout. Après,
et ça t'a pas donné envie d'acheter un paquet de
cigarettes ? Non, je me suis dit non.
Et toi, Charles, t'avais commencé à quel âge ?
Spécial.
Pas très tôt. 17 ans. Ouais, 17 ans.
C'est tôt, ouais.
Bah, t'aurais pas pu, là.
Mais j'adorais fumer, hein, je devrais pas le dire à l'antenne.
De toute façon, si vous j'adorais plus, ça, c'est parce qu'il y a un génial plaisir derrière. Et pourquoi t'as arrêté?
Parce que je voulais arrêter avant 25 ans, en me disant que si je n'arrêtais pas avant 25 ans, j'aurais beaucoup de mal après. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, j'ai arrêté grâce à un livre miracle qui s'appelle « La méthode simple pour en finir avec la cigarette » d'Alan Carr, qui a marché.
Un best-seller.
Et parce que par ailleurs, j'étais tellement accro que ça rendait compliqué pour moi le fait de prendre l'avion, par exemple. Je ne le supportais pas parce que j'étais, dès le début du vol, obsédé par la cigarette que j'allais pouvoir fumer en sortant de l'aéroport
t'étais
à l'arrivée.
Très dépendant.
Et quand je prenais le train, je descendais à toutes les gares fumer des clopes. Donc j'étais
une vraie dépendance.
Extrêmement dépendant, mais c'était en même temps un grand plaisir. S'il m'arrive une énorme tuile dans la vie, peut-être que je reprendrai.
On va écouter Vincent. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour à tous, bonjour à l'équipe.
Merci d'avoir appelé 32-16, parce que vous avez été un gros fumeur, vous l'êtes encore ?
Oui, je le suis toujours, malheureusement.
Vous avez quel âge ?
J'ai 56 ans.
Et vous avez commencé à quel âge ?
14 ans.
Ouais.
Si cette interdiction avait été effective à votre génération, ça vous aurait aidé ?
Sans aucun doute. Sans aucun doute, ça m'aurait évité pas mal de soucis.
Donc vous êtes plutôt d'accord avec ce qui se passe au Royaume-Uni ?
Oui, à 100%.
Mais vous n'arrivez parce qu'en fait vous êtes vraiment dans une dépendance, j'imagine. Vous avez ou alors vous dites non, j'ai pas envie d'arrêter, j'aime ça, tant pis.
Non, j'aime pas ça du tout. Pour être honnête, là actuellement, j'en suis à 2 paquets de 25 par jour.
Ah oui.
Financièrement, c'est énorme. C'est plus de 30 euros la journée.
2 paquets de 25 par jour.
Oui. Ouais.
Vous avez lu la méthode simple,
la méthode Alan Carr.
Alan Carr. Je sais pas si c'est lui, mais j'ai lu un bouquin il y a quelques années qui était soi-disant la recette miracle. Mais quand on est vraiment intoxiqué, c'est très, très compliqué.
Il y a l'hypnose aussi qui peut marcher. Moi, je connais des gens qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose.
Ça a pas marché,
je vous recommande Alan Carr.
Moi,
je connais aussi des gens qui ont arrêté avec Alan
Carr. Beaucoup, hein. Je fumais beaucoup, beaucoup. Alors, j'étais plus jeune. C'était peut-être un peu moins installé dans ma vie.
Combien tu fumais?
Parfois, je fumais 2 paquets. Facilement, 2 paquets. Ouais. Ouais. Si je sortais le soir, je fumais largement 2 paquets.
Ça va vite.
Mais
j'ai fait beaucoup de sport aussi, qui ont peut-être contribué.
Bon, ben, bon courage à vous, Vincent. Mais Vincent, gros fumeur qui n'arrive pas à s'en sortir, dit, moi, j'aurais aimé qu'effectivement, on interdise à une génération de fumer comme au Royaume-Uni.
Le best-of des GG, il vous accompagne une partie de l'été. Attention, les grandes gueules reviennent le 10 août. Faut pas l'oublier, on sera en direct.
Et d'ici là, on se retrouve dès demain 9h.